Donc ce soir, on va passer juste un peu de temps sur la semaine de la Passion. C'est un événement dont il est question dans les quatre évangiles. La semaine dernière, on a survolé, on a vu les quatre évangiles. Et ça, c'est un événement, une semaine qui est décrite dans les quatre évangiles. Et en utilisant les différents récits, on peut se faire une idée plus précise de ce qui s'est passé pendant cette semaine. Les catholiques appellent cela la semaine sainte. Quelqu'un a appelé ça l'agonie d'amour, the agony of love. On est un peu en avance sur le calendrier liturgique, sur le calendrier de Pâques, mais dans deux semaines, le 10, on montrera le film de la Passion de Jésus par Mel Gibson. Donc on fera ça le vendredi 10 à 7h du soir. Vous avez déjà vu ce film? Non? Tu as vu ce film déjà? La Passion de Mel Gibson? Ouais. On va le montrer à l'église le vendredi 10. Ça peut être...
Oui, juste qu'il rentre dans les détails où il y a beaucoup de souffrance.
Oui, mais c'est un film qui secoue, quoi, certains critiquent un peu certains aspects de la doctrine, de personnages qui sont un peu issus de choses de catholiques. Mais, bonsoir. Voilà. Alors, d'après vous, quand est-ce que Jésus a été crucifié? Quel jour de la semaine? Le vendredi. Alors c'est typiquement, on parle du vendredi. Et puis, Jésus avait dit quoi par rapport à... En parlant de Jonas, le prophète qui avait été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Dans Matthieu 12, 40, on peut regarder si vous avez une Bible. On va regarder différents passages. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme, c'est ainsi que Jésus s'appelait lui-même, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Autrement dit, Jésus disait qu'il allait passer 3 jours et 3 nuits enterré. C'est plus tard que les disciples ont compris ça. Mais quand est-ce qu'il est ressuscité, Jésus? Quel jour de la semaine?
Dimanche.
Le dimanche matin. C'était le premier jour de la semaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que les disciples, à l'époque, ont commencé à se réunir spécialement à l'église, entre guillemets, le dimanche. C'est pour ça qu'on se réunit le dimanche. On peut se réunir tous les jours de la semaine, y compris le mercredi soir. Il n'y a pas de règles impératives, mais c'était en l'honneur de cette résurrection. Et donc, s'il est mort le vendredi, ça fait... Il est mort vers quelle heure, le vendredi?
3 heures,
hein, parce que c'est juste, il a d'abord été amené à 9 heures, et puis il y a eu une obscurité à 3 heures. Normalement, il a rendu l'âme, suivant l'expression. Donc il serait mort à vendredi, et c'est un peu comme quand on a fait les 3 jours de prière, ça ferait pas 3 fois 24 heures. Alors certains disent que c'est pas très grave, mais ça m'a toujours gêné un peu, qu'on dise qu'il meurt le vendredi, et puis bon, après le samedi après-midi, ça fait déjà un jour, et puis le lendemain matin, ça fait peut-être 10 heures encore, et puis on dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Ça m'a toujours gêné. Et certains expliquent ça en disant, il y a des gens très, très savants, je ne dis pas que la théorie que je vais vous proposer est nécessairement vraie, mais les gens disaient qu'en fait, si on est on passe un bout de la journée, ça compte pour la journée entière. Donc il y a le vendredi, il y a le samedi, puis il y a le dimanche matin un petit peu. Donc ça fait 3 jours, et puis ça fait à peu près... Les 3 nuits, ils ne sont pas vraiment, mais voilà. Et en fait, il y a une autre théorie. Rassurez-vous, c'est pas essentiel à votre foi, à votre salut, mais c'est intéressant, encore une fois, de se dire qu'on peut rechercher dans la Bible des renseignements, que rien n'est écrit par hasard et que tout est solide. Et la théorie dont je vais vous parler, elle me plaît davantage parce qu'il y a vraiment 3 jours et 3 nuits. Alors, Matthieu, si vous regardez dans Matthieu 28, il y a marqué, le premier verset, c'est après la mort de Jésus, le corps a été enterré, et c'est le matin du dimanche, et il est dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et là, les traducteurs sont pas honnêtes, parce que c'est pas, dans le texte grec, c'est pas le sabbat, mais c'est les sabbats. C'est au pluriel. Alors il faut savoir que le sabbat, qu'est-ce que ça veut dire, sabbat? Ça veut dire simplement repos. Et il y avait la fête du sabbat qui avait été instituée dans l'Ancien Testament pour le repos de l'homme, que l'homme puisse consacrer un jour à se tourner vers Dieu, mais c'est aussi que l'homme soit forcé de se reposer. Aujourd'hui, on voit les gens s'arrêtent plus de travailler, ils veulent travailler toute la semaine, ils veulent toujours faire plus d'argent, etc. Et le sabbat, il y en avait, ça se passait, donc ça tombait le dernier jour de la semaine, qui était notre samedi. Et donc, il y avait 52 semaines, il y avait 52 samedis, il y avait 52 sabbats. Mais en fait, il y avait d'autres fêtes qu'on appelait des sabbats, il y avait 7 autres fêtes qu'on appelait le sabbat, des 7 autres fêtes de repos. Et la fête des pains sans levain, qui est associée à la fête de Pâques, vous vous rappelez, la Pâques, ça venait de quoi la Pâques, à l'origine, dans l'Ancien Testament?
Quand ils sont sortis, les Hébreux de l'Égypte.
Voilà, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a fait savoir qu'il fallait qu'ils soient prêts à partir, qu'ils mangent un agneau sans défaut et sans tache, qu'ils le mangent prêt à partir. Et ça, c'était l'origine de la Pâque. C'était, on sacrifiait un agneau, on versait le sang sur la porte de la maison, et l'ange de l'Éternel voyait ça comme un signe, il passait au-dessus. En hébreu, le mot de Pâque, ça veut dire passer par-dessus. Pessa, en anglais, c'est bien traduit, pass over. Et comme ils n'avaient pas beaucoup de temps, ils devaient manger du pain sans levain, c'est-à-dire sans attendre que la poudre, la putréfaction, le levain fasse monter la pâte. Donc ils mangeaient du pain azim. En grec, azim, ça veut dire sans levain. C'était du pain un peu sec, mais c'était parce qu'il fallait qu'ils soient prêts à partir en vitesse. Et la fête des pains sans levain, c'était une des grandes fêtes du calendrier juif, et c'était justement un sabbat, un jour où on se reposait. Et dans Jean, alors il y a plusieurs passages qui soutiennent cette théorie, c'était le jour de la préparation, Jean 19-31, on peut regarder, Jean 19-31, c'était le jour de la préparation, et pour ne pas 129 dans la Bible, la colombe. C'était le jour de la préparation, et ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat. Or, ce sabbat était un grand jour. Il y avait donc des sabbats ordinaires et des grands sabbats, des sabbats spéciaux. C'était le cas. Les Juifs demandèrent à Pilate de le faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Donc, avant le dimanche de Pâques, le pluriel, le fait qu'il y avait eu des sabbats, hein, on a vu dans Matthieu 28, 1, ça montre qu'il y avait eu la fête des pains sans levain, qui était tombée soit jeudi ou vendredi, puisque ce n'était pas le sabbat, ce n'était pas le samedi, donc c'était soit jeudi ou vendredi. Et si Jésus avait été crucifié le vendredi, la fête des pains sans levain, des pains sans levain serait tombée le samedi. Il n'y aurait eu qu'un seul sabbat. Mais là, il y en a eu deux. Donc, ça s'est passé avant le vendredi, la mort de Jésus, la crucifixion. Et du fait que le texte de Jonas parle de 3 jours et 3 nuits, beaucoup pensent qu'en fait, voilà quelle est la chronologie de la semaine. En partant du vendredi d'avant, avant une semaine avant le vendredi, ce que les catholiques appellent le vendredi saint, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est vendredi, Jésus est à Béthanie. Ça, c'est dans Jean 12, 1. Samedi, une semaine avant Pâques, il fait son entrée triomphale à Jérusalem. Ça se trouve dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu 21, Marc 11, Luc 19. Et puis, le dimanche, c'est un épisode qui est relaté dans Matthieu 21 et dans Marc 11. C'est là qu'il va maudire le figuier. Vous pouvez regarder un des passages, par exemple Matthieu 21. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, il vit un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et dit « qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi ». Et à l'instant, le figuier sécha. Ça serait passé, donc, cet épisode, ces événements du figuier, ça se serait passé le dimanche précédent, juste avant Pâques. Le lundi, c'est le complot contre Jésus. Dans Matthieu, par exemple, Matthieu 26, 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. La Pâque, c'était la fête des pains sans levain. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Matthieu 26, 2. Donc, on approche dans... Ça, c'est lundi. Et le mardi, ça va être le soir de la Sainte Cène. Matthieu 26, 17, c'est dans le même chapitre. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous préparons le repas de la Pâque ?» Donc, il s'agit là de la Pâque juive. Et ça, c'est le mardi soir qu'il fête la Sainte Cène. Et donc, d'après cette chronologie, en essayant de recouper toutes ces choses, ça serait le mercredi qu'il y a l'arrestation, le procès, la crucifixion de Jésus. Donc Jésus n'aurait pas été crucifié en réalité le vendredi, mais plutôt le mercredi. Et ça ferait coller toutes ces choses. Les 3 jours et 3 nuits, le fait qu'il y avait 2 sabbats. Le sabbat, ce serait le lendemain, ce serait la fête des pains sans levain. Est institué dans le Lévitique, ce serait le jeudi. Et c'est pour ça que les Juifs ne voulaient pas qu'ils restent pendus le jour de la fête des pains sans levain, le jeudi. C'est pour ça qu'ils le font enlever. Le vendredi, il y aurait les femmes qui préparaient les épices et les onguents pour aller recouvrir, momifier pratiquement le corps de Jésus. Le sabbat, c'est le repos. Et les femmes ont observé le commandement, Luc 23, 56, je ne sais plus ce que c'est comme passage, avec une référence. Donc, il y a une journée où elle prépare des épices, et donc on pense, nous, que c'est le vendredi. Elles s'en retournèrent pour préparer les aromates et les parfums, puis pendant le sabbat, donc le sabbat ordinaire, elles observèrent le repos selon le commandement. Et puis c'est le premier jour de la semaine, si on suit Luc, c'est donc le dimanche matin qu'elles se rendent au tombeau et qu'elles, là, elles trouvent que Jésus est ressuscité. Et avec cette chronologie, on voit que les événements se tiennent beaucoup mieux que quand on pense à cette crucifixion le vendredi. Mais ça vient du fait que dans le texte grec, après les sabbats, il y avait eu deux sabbats cette semaine. Alors, encore une fois, je partage ça parce qu'on parle de cette dernière semaine, on essaye de voir un peu la chronologie. Si vous avez votre grand-mère ou votre ami qui croit que Jésus il est mort le vendredi, c'est pas la peine d'en faire tout un débat. Si la personne est intéressée de voir pourquoi il y a un doute ou on pense que la chronologie n'est peut-être pas nécessairement la chronologie traditionnelle, vous pouvez essayer d'expliquer qu'il y avait eu deux sabbats et que... C'est surtout, moi, ça m'a toujours gêné l'histoire de dire qu'il y a trois jours et trois nuits, mais c'est du vendredi après-midi au dimanche matin à l'aurore. Ça m'a... Et quand il y a quelque chose qui vous gêne dans la Bible, quelque chose qui vous paraît... Gardez ça et demandez pourquoi. Posez les questions. La Bible n'a jamais peur qu'on lui pose des questions. Les autorités ecclésiastiques ont peur qu'on leur pose des questions, qu'on leur demande des choses. Mais voilà, ça c'est une première chose. Et le sabbat qui suivait la fête du pain sans levain, c'est ce qu'on appelait la fête des premiers fruits. Et ça correspond au fait que Jésus, c'est le premier fruit, c'est le premier né d'entre les morts. Ça correspond à toute la... toute la symbolique et à toute la vérité annoncée par la Bible avec cette fête des premiers fruits. Donc la résurrection, on est sûr, c'était le dimanche, c'est bien dit, mais la crucifixion, quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est plus probablement le mercredi que le vendredi. Salut! Bible. Alors on vient de montrer que la crucifixion a eu lieu le mercredi et non pas le vendredi. Waouh ! Dernière nouvelle. Normalement c'est enregistré si jamais. Quelqu'un va expliquer pourquoi ?
Les deux sabbats.
En fait, l'idée, c'est qu'il y a eu... J'expliquais que c'est pas critique pour votre foi, mais il y a eu, dans la traduction, lorsque les femmes vont trouver le tombeau et s'aperçoivent que Jésus ressuscité, la traduction dans Matthieu 26 est fausse. Ils disent « après le sabbat ». En fait, c'est « après les sabbats ». Il y a eu deux sabbats. Il y avait un sabbat chaque semaine, qui correspondait au samedi, un jour de repos par semaine, le dernier jour de la semaine, mais il y avait aussi sept sabbats dans l'année qui correspondaient à des grandes fêtes. Et une de ces fêtes, c'était la fête des pains sans levain, qui rappelait la célébration de la commémoration de la fuite en Égypte, d'Égypte plutôt, avec le pain sans levain, la Pâque juive. Et Ça serait passé, la fête se serait passée le jeudi et ça aurait été le mercredi qu'il aurait été crucifié. Et ça correspond beaucoup mieux lorsque Jésus disait dans Matthieu 12 qu'il allait passer comme Jonas trois jours et trois nuits dans la terre, comme le prophète Jonas avait passé dans la terre, lui aussi allait faire ça. J'ai toujours eu du mal, je disais, avec l'explication qu'il est mort à 3h vendredi après-midi, qu'il est ressuscité à l'aube le dimanche matin et qu'on compte 3 jours et 3 nuits. Alors la tradition, c'est de dire oui, mais un jour dans la civilisation juive, dès qu'on avait passé un petit peu de temps dans le jour, ça comptait comme un jour. Un peu comme les jours de RTT ou les jours administratifs, si on vient, ça compte. Non. Et donc ça, c'est une forte possibilité que la crucifixion ait lieu le mercredi et non pas le vendredi, comme on le fête traditionnellement avec l'Église catholique et d'autres fêtes. On a dit aussi que l'entrée triomphale à Jérusalem, elle s'était passée probablement le samedi d'avant donc une semaine avant Pâques, pratiquement. C'était le sabbat d'avant. Et il y avait une prophétie dans Zacharie 9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Alors vous savez que Jésus a justement fait cette entrée triomphale à Jérusalem. Et on a parlé il y a quelques semaines de peut-être la plus grande prophétie de la Bible. C'est laquelle? Est-ce que vous vous souvenez de la plus grande prophétie de la Bible? Ou une des plus grandes, parce que il y a beaucoup de grandes prophéties dans la Bible. Au niveau prophétique, au niveau de la fin des temps, on a dit que c'était la prophétie qui se trouvait dans Daniel 9. On va regarder Daniel 9, si vous voulez. Dans la Bible à la colombe, il se trouve page 886, on va dire. Et là, il est dit 70 semaines à partir du verset 24, Daniel 9, 24. Ce qu'on appelle des fois la prophétie des 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Là, c'est une parole qui est rapportée par l'ange Gabriel à Daniel. Qui est le peuple de Daniel dont il est question ici? C'est les Bretons, les Corses, les Martiniquais, les Hébreux, les Juifs, oui. Et sur ta ville sainte, quelle est cette ville sainte?
Jérusalem.
Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse, après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Puis ça continue, verset 27, « Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Une prophétie un peu énigmatique, mais qu'on peut, nous qui avons le bénéfice d'être dans la période du Nouveau Testament, le Nouveau Testament a été écrit, on peut mieux comprendre ce qui est annoncé ici. Lorsqu'il est dit 70 semaines, là encore, il faut faire attention aux traductions. Le mot traduit par semaine, c'est le mot hébreu shabua, qui veut dire simplement une septaine, une série de sept. Et les gens qui étudient la Bible comprennent qu'en fait, c'est 70 semaines, c'est 70 fois 7 années. C'est des séries de 7 ans et non pas des semaines de 7 jours. Il est question d'une septaine d'années et non pas d'une septaine de jours. Donc, il est dit que 70 semaines ont été fixées pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute, amener la justice éternelle. Ça veut dire pour que le monde redevienne tel que Dieu le voulait, pour que la paix règne, une justice éternelle soit présente sur la terre, il va falloir que 70 semaines se passent, 70 fois 7 ans se passent. Et puis, l'ange Gabriel dit à Daniel, « Prends donc connaissance et comprends. » Donc c'est pas impossible à comprendre. Il y a des éléments qui nous sont donnés pour qu'on comprenne mieux ce qui est dit, ce qui est prophétisé. Il est question de la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem. Alors ça, en étudiant l'Ancien Testament, on trouve que dans le livre de Néhémie, on va aller voir dans le passage de Néhémie chapitre 2 verset 1, page 486 dans la Bible de la Colombe, c'est après les livres historiques, roi Samuel, roi chronique, Esdras, Néhémie. Si vous tombez sur les psaumes, vous êtes allé trop loin, revenez à gauche vers Job, Esther, Néhémie. Et là, il est question de... Vous vous souvenez, Néhémie avait servi en exil, il était juif, et il servait l'empereur perse Artaxerxès. Il était son échanson, c'est-à-dire qu'il goûtait les mets qu'on lui servait, au cas où on aurait voulu empoisonner le roi Artaxerxès. Il regardait toujours avant de manger ce que son échanson, comment il réagissait. Il le connaissait bien, et il explique qu'il avait, il était triste au mois de Nissan, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi le remarque et lui dit, pourquoi est-ce que tu as l'air si triste? C'est peut-être un chagrin de cœur. Verset 2 du chapitre 2 de Néhémie. Et là, Néhémie a peur parce que le roi, s'il y a quelque chose qui ne va pas comme il veut, il peut décider brutalement de dire, bon ben, on te met à mort ou je te renvoie, etc. Et là, Néhémie explique qu'il est triste parce que la ville, il parle de Jérusalem, la ville où sont les tombeaux de mon père, est détruite et ses portes ont été dévorées par le feu. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et là, Néhémie lui dit, s'il plaît au roi, verset 5, si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi lui demande combien de temps ça va durer. Il continue, il lui dit une certaine durée, puis il demande au roi s'il peut lui envoyer des lettres de recommandation pour les laisser passer, en quelque sorte, pour pouvoir circuler, pour obtenir des matériaux, du bois, des pierres, etc. Et le roi accorde cela à Néhémie, et c'est donc, en fait, ce jour du 20e année dans Néhémie, on voit que c'est ça la promulgation de la parole disant de reconstruire, de rétablir et de reconstruire Jérusalem. Ça correspond donc à cet épisode entre Néhémie et Artaxerxès. Et on sait par d'autres recoupements, par la Bible, mais aussi par d'autres recoupements historiques, parce que la civilisation perse était connue par ailleurs. On a retrouvé des archives, on a retrouvé des pierres gravées, etc. Et donc, on peut mettre une date très précise sur cette déclaration d'autorisation de promulgation. Et on tombe à une date en 445 avant Jésus-Christ. Et si on ajoute à cette date, donc avec les mois qui correspondaient au mois de Nissan, on pense que c'était le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. Si on ajoute 69, il est dit donc il y a 7 semaines et 62 semaines au verset 25. Jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines pour un total de 69 semaines. 69 fois 7 années. À l'époque, dans le calendrier juif, les années comptaient 360 jours et non pas 365. Ils ne corrigeaient pas comme on l'a fait avec les Romains qui ont établi le calendrier julien. Si on ajoute donc ces... Si on calcule le nombre de jours, on ajoute même le nombre de jours qui doivent être... il y avait des années bissextiles, qui avaient un jour de plus. 116, et la différence entre le 14 mars et on arrive avec 173-880 au 6 avril de l'an 32, qui correspond exactement à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce samedi avant Pâques. Alors là, je vous dis ces chiffres. Si vous voulez des détails, je peux vous donner des références précises avec les calculs très très précis. Maintenant, avec Internet, vous pouvez trouver toutes ces choses. Je ne sais pas si vous faites un peu de recherche biblique avec Internet, ça devient une facilité déconcertante. Il suffit de taper. Même s'il y a un passage que vous cherchez, vous ne savez plus où il est. Normalement, avant, on allait voir une concordance. Maintenant, vous pouvez taper le nom, un peu du passage que vous vous souvenez, et en une seconde, vous avez le verset, des tas d'enseignements. Tout ça pour dire que l'arrivée du prince Messie, ça fait référence, et cette prophétie de Daniel fait référence à l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. On sait que la même foule qui va l'acclamer va être la foule qui va dire « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le », juste quelques jours plus tard. Il est dit que le Messie, après les 62 semaines, le Messie allait être retranché. Le Messie, c'est bien le Messie qui était Jésus, parce que le mot retranché, ça peut se traduire aussi par éliminer, exécuter, tuer. Et donc, on arrive à ces 69 semaines. Mais il a dit qu'il y avait 70 semaines qui avaient été décrétées par Dieu au départ de la prophétie de Daniel 9 au chapitre 24. Et le Messie est retranché, il n'y a personne pour lui. Il y a le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Ça fait référence aux Romains qui allaient venir détruire le temple de Jérusalem. Ils sont venus en l'an 70 pour... et là, le temple a été détruit. Donc la ville a été détruite ainsi que le sanctuaire. Jésus avait dit que ce temple serait détruit, mais qu'il allait le reconstruire en 3 jours, en parlant du temple qui était construit à Jérusalem. Et en l'an 70, c'est Titus, qui était un général de Vespasien, qui est venu avec ses troupes. Et là, il y avait des tas de revêtements d'or. Il y a eu un incendie involontaire, on pense au départ, qui a mis le feu au temple. Et l'or, qui recouvrait beaucoup des mobiliers, etc., a fondu et a coulé. Si bien que les soldats, après, pour rechercher l'or, ont utilisé tous les moyens, ont tout mis sans dessus dessous pour retrouver l'or. Et c'est ce que Jésus avait prédit, que ce temple allait être détruit. Et ça, c'est la prophétie de Daniel qui se réalisait. Dans le verset 26, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et là, c'est comme si le chronomètre de l'histoire est arrêté. La 70e semaine, elle va reprendre plus tard. L'intervalle qu'il y a entre la fin de la 69e semaine avec la crucifixion, c'est en fait le temps de l'Église. L'Église, c'est comme une parenthèse dans l'histoire du peuple juif. Et cette parenthèse, elle était impliquée dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de moments où il était dit que Dieu allait s'éloigner de son peuple. Il allait se consacrer aux païens. Et il y a un verset dans Romains 11, 25. Page 180. Page 181. Paul explique que Dieu n'en a pas fini avec son peuple, avec le peuple juif, le peuple de l'alliance, de l'ancienne alliance, de la promesse. Parce que ça répond aussi à ce que certains pensent, qu'en fait le peuple de Dieu était anciennement Israël et puis qu'il a été remplacé par l'Église, parce que les Juifs n'ont pas fait ce que Dieu leur demandait, ils ont déplu, et qu'en sorte de jugement, ils ont été remplacés par les païens, les non-juifs. Mais Romains 9, les chapitres 9, 10, 11, montrent que Dieu n'a pas fini, que les promesses qu'il a faites avec la nation d'Israël, il va les tenir. Et là, notamment, verset 25, il dit, du chapitre 11, « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Tout Israël, ça ne veut pas dire que tous les Israélites seront sauvés, mais le vrai Israël, c'est ceux qui adorent Dieu. Le mot juif, ça veut dire adorateur, adorer Dieu, Judéa. Et donc, il y a cette expression, la totalité des païens. Des fois en anglais, on dit « the fullness of the Gentiles », soit entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, Dieu sait à l'avance quand le dernier païen entrera dans le royaume des cieux. La dernière personne qui viendra appartenir à l'Église, ce sera le dernier non-juif. Il y a quelqu'un que Dieu connaît à l'avance, qui sera le dernier païen converti. Et peut-être que cette personne, si ça se trouve, elle est à côté de vous à l'hôtel, elle est à côté de vous à la fac. Et à partir de ce moment-là, dès que cette personne sera convertie, réalisera et viendra à Jésus, Dieu redéclenchera le chronomètre de l'histoire. Et ça va être la dernière semaine. Là, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ça sera la semaine, les 7 années de ce qu'on appelle la grande tribulation. Et au milieu de la semaine, on sait qu'il y aura l'Antéchrist. Et ça, c'est la référence qui est faite au dévastateur. Il fera une alliance pendant la moitié de la semaine, pendant 3 ans et demi. Il y aura cet homme plein de charisme, au sens relations humaines, qui semblera apporter la paix sur le monde. Tout le monde dira, enfin, on a trouvé. Alors, certains disaient que c'était peut-être Sarkozy, certains d'autres pensent que c'est peut-être Obama. On pense qu'il doit venir plutôt de l'Empire romain reconstitué à la fin des temps, donc plutôt un Européen. Mais en fait, il sera dirigé par Satan, et c'est lui qui s'opposera et pour lequel Jésus va revenir. Ça, c'est l'Apocalypse, et on pourra en parler sans doute plus à la fin quand on survolera, on fera un survol de l'Apocalypse. On prendra un peu de temps pour parler de ces événements. Mais cette prophétie, tout ça pour dire qu'il y a la fin du Messie, le Messie a été retranché, c'est la crucifixion de Jésus. Le calendrier de l'histoire, le chronomètre a été stoppé. Et maintenant, c'est l'âge de l'Église, c'est l'âge de la patience de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Des Juifs peuvent venir à lui, mais le grand réveil se passera pendant la période de la grande tribulation. On a maintenant déjà des Juifs messianiques, il y a des gens qui travaillent en Israël, mais le vrai retour, le vrai réveil en Israël, ce sera après que le dernier païen aura été converti. Alors certains groupes missionnaires qui essayent comme argument pour recruter du monde de dire que si on annonce l'évangile, si on peut forcer la fin des temps, l'arrivée de Jésus pour réparer tout le mal, etc., à activer la venue du royaume de Dieu en allant convertir les gens, en essayant de trouver ce dernier païen. Qui c'est ce dernier païen ? Donc ça, je ne pense pas qu'on puisse forcer la main de Dieu. Dieu a son calendrier, c'est lui qui le... Mais pour l'instant, on est dans l'âge de l'Église où il nous demande justement de partager la bonne nouvelle avec le plus grand nombre. Que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, des pas convertis, que ce soit des catholiques refroidis ou des païens qui refusent Dieu. Notre nouvelle, nous, c'est d'annoncer l'annonce d'un Dieu qui les aime au point de faire ce qu'il allait faire cette dernière semaine. On va continuer. Jésus, juste une dernière chose. Jésus disait que il pleurait sur Jérusalem dans Luc 19. Donc là, il accomplit la prophétie de l'annon de Zacharie. C'est son entrée triomphale à Jérusalem. Donc il approchait, verset 37, de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Parce que, de toute évidence, ils acclamaient Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Et les pharisiens disaient à Jésus, « Mais attends, reprends tes disciples, ils t'acclament comme si tu étais Dieu, comme si tu étais le vrai Messie. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » On chante ce chant, « Si je ne loue ton nom, les pierres le feront, les montagnes le feront. » Et verset 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Tu n'as pas... Verset 40 plus loin, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Autrement dit, Jésus disait que ils allaient être détruits par les Romains. Ils allaient les assiéger, les écraser. ne pas laisser pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce qu'ils n'avaient pas compris la prophétie de Daniel. Ils n'avaient pas compris que sa présence à lui, c'était la prophétie qui serait réalisée. Alors on peut se dire, mais de toute façon, c'était dans la prophétie qu'il allait avoir la destruction. C'est vrai, mais Jésus pleure parce qu'il se dit, si seulement il pouvait voir qui je suis vraiment, de façon, y compris les chefs religieux, la foule de ses disciples, et puis la foule le reconnaissait comme le Messie, mais quelques jours plus tard, la foule allait le rejeter comme un criminel. On a parlé dans les psaumes, quand on a survolé du psaume 22, qui décrit en détail le supplice de la croix. Alors que lorsqu'il a été écrit ce psaume 22, regardons rapidement quelques passages du psaume 22. On va lire seulement quelques versets à partir du chapitre 13, mais tout le psaume est un psaume messianique, c'est-à-dire qui s'applique au Messie, à Jésus. Verset 13, c'est presque une description de son supplice. « De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats, tout rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je compte tous mes os. Eux, ils m'observent, ils arrêtent leur regard sur moi, ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle, tu m'as répondu. » Alors cette description du corps qui se disloque, ses os ne sont pas brisés. La sécheresse, la soif intense qu'il ressent, le fait, la prophétie qu'ils vont percer ses mains et ses pieds, et je compte tous mes os, ça c'est en fait lorsqu'on lit les détails de la crucifixion dans les évangiles, on s'aperçoit que le psaume 22 a été réalisé à la lettre, alors que, encore une fois, quand David a écrit ce psaume, le supplice de la croix n'avait pas été encore inventé. C'est les Perses qui l'ont mis au point et les Romains qui l'ont repris. Les Perses l'ont mis au point plus de 250-300 ans plus tard, après que le psaume ait été écrit. On va parler de la Sainte Cène. Là, je ne fais pas une lecture de tous les évangiles. Je parle parce que j'imagine que vous avez tous déjà une connaissance de la crucifixion, de la trahison par Judas. La Sainte Cène, Matthieu 26, regardons Matthieu 26, chapitre 26, verset 5. On va reprendre à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et là, tout à l'heure, quand on refaisait la chronologie, on disait que c'est la Pâque juive. Et c'était donc, ça correspondait au jeudi. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils résolurent de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Donc il y a ce complot. Mais ils disent toutefois, ils disaient pas en pleine fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Et ils ne voulaient pas le faire cet autre sabbat dont on a parlé, qui était la fête des pains sans levain. Mais c'est précisément ce qui va se passer en fait. Il va être crucifié pendant cette fête des pains sans levain. C'est Jésus qui contrôle la situation en fait. On va voir dans tous ces épisodes, Jésus a dit c'est pas eux qui me prennent la vie, c'est moi qui la met, qui la donne. Et c'est vrai que peut-être vous avez, je sais pas, quand vous êtes venu à entendu parler de la crucifixion, etc. Moi, j'ai été élevé comme un petit catholique. J'allais au catéchisme, je connaissais un peu ces histoires. Et à chaque année, à Pâques, j'espérais que l'histoire serait différente cette année. Un peu comme j'espère que cette année, on va m'apprendre à l'église qui ne se fait pas prendre par les Romains, qui ne meurt pas sur la croix. Parce que c'était tellement injuste, c'était tellement révoltant que j'avais l'impression qu'il était victime. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris, en fait, c'était Jésus qui avait choisi, parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin pour aller à Dieu que par lui, par ce sacrifice d'amour où il meurt sur la croix pour prendre à ma place la punition de mes péchés et pour me donner la vie éternelle. Et en fait, dans tout l'épisode de la Sainte Cène, de la trahison, de Gethsémané, de son arrestation, on voit que c'est Jésus qui est en contrôle, qui contrôle les choses. Dans Jean, par exemple, on va regarder dans l'évangile de Jean. Déjà dans Jean 13, 27, il annonce que l'un d'eux allait le livrer. Dans Jean 13, chapitre 13, verset 21, après avoir ainsi parlé, faisant allusion au fait qu'il avait dit « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi », une autre prophétie qui allait s'accomplir. « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, c'est Jean qui écrit ce récit, et qui modestement ne dit pas son nom, mais celui que Jésus aimait était couché à table près de Jésus. Simon Pierre lui fit signe et lui dit « Demande qui est celui dont il parle. » Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répondit « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il le trempa le morceau et le donna à Judas, le fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Et aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, et lui qui s'occupait des finances, c'était le trésorier du groupe, de l'association, quelques-uns pensaient que Jésus lui avait dit « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou donne quelque chose aux pauvres. » Jésus prit le morceau et sortit aussitôt. Et il faisait nuit, donc Jésus savait qu'il allait voir les chefs religieux pour venir organiser son arrestation. Mais dans Jean 18, on voit que c'est Jésus qui lorsque on vient l'arrêter, Jésus, verset 4, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? C'est lui qui parle, il est plein d'autorité. Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth, il leur dit, c'est moi. Et c'est en disant cela, il dit « Je suis ». Par cette déclaration, il se déclare comme Dieu. Le « Je suis » de l'Ancien Testament, « Je suis celui qui est ». Lorsqu'il dit « Je suis celui-là », pour les Juifs, c'était une déclaration de ce qu'il était lui-même, Dieu. Les Juifs, les soldats plutôt vont tomber à la renverse, dans la description, mais c'est Jésus qui contrôle au verset 8, il leur dit, Je vous ai dit que c'est moi. Il répète. C'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Si vous cherchez I am, je suis, laissez partir ceci. C'est lui qui contrôle la situation. Et ça, c'est le début de son arrestation. Et puis là, il va y avoir un procès cette nuit-là. En fait, combien il va y avoir de procès? Il ne va pas y en avoir un. Il va y en avoir six. Il va y en avoir trois devant les Juifs. Il va passer devant Anne et Caïphe. D'abord Anne, puis après Caïphe, et puis après devant le groupe des sages juifs qui s'appelait le Sanhédrin, un peu la cour suprême des autorités religieuses juives. Alors il y a Anne, c'était un homme en fait. En anglais c'est moins gênant. C'est Anna ou Anne. Anna. Et Caïphe. Caïphe avait été nommé grand prêtre par Rome, mais les Juifs continuaient de respecter, de reconnaître son prédécesseur Anne comme le grand prêtre. Donc il y avait une relation de famille. Donc soit on allait voir l'un, soit on allait voir l'autre. Mais dans la nuit, il va passer devant Anne, devant Caïphe et devant le Sanhédrin. Et puis il va avoir trois procès devant les Romains. Il va aller voir Pilate. Il va comparaître devant Pilate. Pilate, ça l'en kikine, cette histoire, il n'y comprend rien. Il le renvoie, je vais l'envoyer devant Hérode, puisqu'il est le roi des Juifs, il avait été nommé par les autorités juives. Hérode, lui, va le renvoyer devant Pilate. Tous ces procès, il faut que vous sachiez que d'après les lois juives et les lois romaines, ils n'étaient pas légaux. Il y avait des fautes. On aurait pu, s'il y avait eu un bon avocat, il aurait pu facilement faire annuler tous ses jugements pour vice de forme. Par exemple, on ne pouvait pas attacher un prisonnier avant qu'il n'ait été déclaré coupable. Or là, dans le récit, on s'aperçoit qu'il comparaît, qu'il l'attache, qu'on le fait paraître devant ses personnages. Les juges ne devaient pas participer à l'arrestation des suspects. Or là, quand ils viennent l'arrêter, il y a certains de ces juges. La nuit, on ne pouvait pas faire comparaître les gens qu'on allait juger. Donc tous ces procès qui ont lieu pendant la nuit, ils sont illégaux. On le voit bien dans le film de La Passion de Mel Gibson, qu'on montrera donc le vendredi avant Pâques. Ça se passe la nuit, c'est en cachette, ça devait pas avoir lieu la nuit. Si on devait rendre une décision, un acquittement, on pouvait le rendre le jour même. Mais une toute autre décision, donc une condamnation ou une décision de poursuivre le procès, ça devait se passer le jour suivant. Donc normalement, ils n'auraient pas pu le juger la nuit et déclarer qu'il allait être mort. Il n'y avait aucun témoin qui n'était appelé pour la défense. Surtout pas de faux témoins. Or, là, ils vont faire appel à des faux témoins qui vont dire « Oui, il a dit qu'il allait abattre le temple, alors qu'il parlait de son corps qui allait être détruit. » On ne pouvait pas organiser de procès un jour de fête, comme une haute fête, comme cette fête des pains sans levain, qui était l'autre sabbat dont il était question avant le samedi de Pâques. Il y a un épisode où on voit le grand prêtre qui déchire ses vêtements en signe de colère. Les religieux, ça c'était dans le Lévitique, on voit la tradition qui s'était instaurée de déchirer ses vêtements en signe de deuil ou de scandale. C'est un scandale, je déchire ma veste. Par contre, le grand prêtre, il lui était interdit dans le Lévitique 21:10, si vous notez des références, Le grand sacrificateur ne devait jamais décoiffer sa tête ni déchirer ses vêtements. Donc il y a toute une série de choses qui font que ce jugement, en fait, tout ça serait facilement si Jésus, par exemple, avait voulu se défendre. Et c'était moi, en tant qu'enfant, c'était « Mais pourquoi il réagit pas? Pourquoi il se laisse accuser alors qu'il n'a rien fait de mal? C'est scandaleux !» En fait, c'est pour nous montrer qu'il allait à la mort comme un agneau qui va à la boucherie. Il portait mes péchés sur lui. Et Dieu merci, il n'a pas appelé le meilleur avocat, il n'a pas lui-même plaidé sa cause en disant « Je fais appel parce qu'on me fait comparaître la nuit, c'est illégal. » Les autorités, s'il avait eu une défense, s'il y avait eu des témoins, n'auraient pas pu l'accuser. Pilate même, qui était le représentant du gouvernement romain, disait « Je ne trouve aucune faute en lui. » Pilate lui-même a déclaré qu'il était innocent. Et vous savez qu'il a, pour célébrer la fête, donc ça c'était pas le sabbat, c'était la fête de la Pâque qui tombait le jeudi, le mercredi, il y avait ce geste de libérer un condamné à mort. Et vous vous souvenez qu'il y avait un dénommé Barabbas. Alors, voyons où il est question de... On peut lire Matthieu 27 à partir du chapitre 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ça, c'est Matthieu 27, 15. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient... Barabbas, ça veut dire aussi fils du père, c'est intéressant comme nom. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » Barabbas ou Jésus appelé le Christ. Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Donc il a bien compris que Jésus n'avait rien fait qui mérite la mort. Et on peut penser, quand on lit les différents évangiles, on voit que Pilate aurait bien aimé, sa femme avait même fait un rêve qui lui disait « Ne touche pas à cet homme ». Il aurait bien aimé pouvoir libérer Jésus. Certains pensent que même qu'il s'est peut-être converti après la mort de Jésus. Et certains disent « On ne serait pas surpris de voir Pilate au paradis ». Mais ça, c'est des suppositions. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Donc c'est dans cet évangile qu'il est dit. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Et ça, on le voit bien dans le film de Mel Gibson. Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et il cria encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et se dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Puis on peut continuer. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et la couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « « Salut, roi des Juifs !» Il crachait sur lui en prenait le roseau et frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Puis après, il y a la description de Cyrène, Simon de Cyrène qui va l'aider, puis la crucifixion. Mais là, on voit qu'il libère ce Barabbas. Et ce Barabbas, il va... C'est un meurtrier. Il va donner ses chaînes, cette malédiction qu'il avait, cette condamnation à mort qu'il avait, la souffrance physique qu'il attendait, c'est lui qui aurait dû crucifier. Tout ça, ça va passer sur Jésus. C'est Jésus qui va, parce que la foule dit qu'on crucifie Jésus. Et l'innocence de Jésus, la sécurité, son bien-être, en fait, c'est Barabbas. Il va recevoir tout ça. Il va être libre. Quelqu'un a dit très justement, tous autant que nous sommes des Barabbas. C'est nous qui méritons la peine de mort, la punition, mais Jésus la prend librement. Il prend tout le mal que nous avons fait, nos péchés, nos liens, notre malédiction, l'agonie que nous méritons, il la prend sur lui. Et si nous croyons qui il est, ce cadeau qu'il nous fait, nous recevons par la grâce son innocence, son bien-être, sa justice. Nous sommes tous des Barabbas. Il est dans Jean 19, il y a un épisode intéressant. Jean 19, verset 21. Jésus est crucifié, il va à l'endroit qui s'appelle Golgotha, le crâne. Il est crucifié avec deux autres brigands de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y en a vraiment, d'après la description, d'après le texte, les spécialistes, on a vraiment l'impression que c'est lui-même qui a fabriqué cet écriteau et qui l'a placé sur la croix. C'est pas les soldats, ou si c'est des soldats, il était là, il gouvernait vraiment tout ce qui se passait. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Pas en anglais encore, mais hébreu, latin et grec. Et là, on voit une réaction des sacrificateurs qui disent, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Si c'est vraiment Pilate qui a écrit l'inscription, on peut penser que quand il était venu comme gouverneur en Palestine, terre promise, il s'était mis à l'hébreu, il avait appris l'hébreu, il connaissait le latin, c'était la langue de Rome, il connaissait le grec sans doute, qui était la langue des voyageurs, de par l'Empire romain et l'Empire d'Alexandre avant, le grec était une langue comme l'anglais aujourd'hui pratiquement. Et il avait écrit en hébreu Jésus, l'inscription c'était Jésus le Nazaréen et le roi des Juifs. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. En hébreu, c'était probablement Yeshua à Nazaré, Vemelech à Yehudim. Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Et les initiales de ces quatre mots en hébreu, c'est, on dirait en anglais, ou c'était le YHWH, le Yahweh, le Yéhovah. C'est l'initiale de Jésus, c'est le Yod. L'initiale de Nazareth, c'est A-H. Et le roi, c'est V, le Melech, c'est et le dernier des Juifs à Yehudim. Donc, en fait, lorsqu'il a écrit cette inscription en hébreu, les initiales des quatre mots hébreux disaient que Jésus était Yahweh. Et c'est pour ça que les chefs religieux rouspètent et disent « Ne dis pas ça, change, il dit « Je suis le roi des Juifs », ça va changer l'ordre, ça va, mais en regardant bien, c'est pour ça que les... » Et peut-être que Pilate savait bien ce qu'il faisait. Alors est-ce qu'il s'est converti là ou est-ce qu'il est prêt à dire que Jésus c'est Yahweh? C'est pas dans... on peut le supposer peut-être ou trouver que ce serait chouette comme idée. Mais c'est sans doute pour cela que les Juifs sont si... ils réagissent si fortement, les principaux sacrificateurs. Ah non, surtout pas ça. Tu vas pas dire qu'on vient... Mais c'est pour ça qu'ils l'ont tué, parce qu'il disait être le roi des Juifs, parce qu'il disait être Jésus, il disait être le Messie, il disait être Dieu. On va terminer juste par deux autres petites remarques. On avait vu dans la Genèse 8, dans la description de... du déluge, qu'il était dit au verset 4 du chapitre 8 que les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Verset 4, le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant, etc., jusqu'au 10e mois. Et un principe très important lorsque vous étudiez la Bible, c'est de savoir qu'il n'y a pas de détails qui n'ont pas leur importance. Si Dieu a permis que le Saint-Esprit inspire Moïse pour qu'il dise que c'est le 17e jour du 7e mois que l'arche s'est arrêtée et qu'ainsi il y a eu un nouveau commencement de la planète Terre après le déluge, c'est pas sans doute par hasard. Et là, je lisais un auteur qui disait qu'en fait, la résurrection, elle a eu lieu justement le 17e jour du 7e mois, le mois de Nisan. Le dimanche, ça tombe donc ça tombe être ce 17e jour du 7e mois. Et c'est un peu comme... Cette annonce dans la Genèse, c'était un anniversaire avant la date, une préfiguration, une anticipation de notre nouveau commencement en Christ, lorsque Christ est ressuscité le 17e jour du 7e mois. Et puis, une chose qui peut-être vous a surpris aussi, ça m'a toujours un peu gêné aussi, c'est que les gens avaient du mal à reconnaître Jésus après sa résurrection. Vous avez remarqué ça déjà? Est-ce que vous vous souvenez d'épisodes dans les évangiles où les gens avaient du mal à le reconnaître? Oui, non, vas-y. Sur le chemin d'Emmaüs, ouais. Et même, c'est Marie qui va chercher Jésus. Et elle pense que c'est le jardinier. Et il faut que Jésus lui dise, Marie, pour qu'elle dise, « Oh, Rabbouna, maître !» Ça, c'est dans Jean 20. Elle pense que c'est le jardinier. Verset 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Elle dit, « Seigneur, comme on disait, monsieur, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Donc là, elle ne l'avait pas reconnu sur le moment. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ça c'est dans Luc, Luc 24, je crois. deux des disciples aller d'un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ça fait presque, je crois, 13 kilomètres, si je ne me trompe pas. Et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et là, il y a cette étude biblique fantastique. Une étude de plusieurs kilomètres avec Jésus. Et c'est seulement lorsqu'il prit le pain, il mange avec eux, il l'invite, il le rompit, leur donna, et là leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et donc là aussi, ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus? Il y a une prophétie biblique, une prophétie sur la crucifixion, la mort de Jésus, qui n'est pas mentionnée dans les évangiles. Mais je crois qu'on est en droit de penser que, vu que toutes les autres prophéties se sont réalisées, cette prophétie qui se trouve dans Ésaïe 50, elle s'est aussi réalisée. C'est une prophétie du serviteur de l'Éternel qui est une parfaite description du Messie, de Jésus, qui allait souffrir. Verset 4, il dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Ça c'est une prophétie qui a été réalisée. « Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Ça c'est pas décrit dans les évangiles, mais j'ai tendance à penser, et je suis pas le, c'est pas le, j'ai lu cette hypothèse qu'en fait cette prophétie avait été réalisée et que les soldats s'étaient amusés à lui arracher la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Et donc ça, je sais pas si vous avez vu quelqu'un qui a une barbe et quelqu'un qui rase sa barbe. On avait l'an dernier, on avait, comment il s'appelait, l'ami de Noah, Jay. Il avait une grosse barbe. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, on pouvait voir, à un moment donné, il y a quelques mois, il s'est rasé la barbe, on ne le reconnaît pas. Et il est très possible que, justement, Jésus ait eu la barbe arrachée. Alors, il était possible que ça ait fait des cicatrices, qu'il ait eu le visage tout, entre guillemets, vérolé de boutons. Mais ça expliquerait qu'à la fois la prophétie s'est réalisée et que les gens avaient du mal à le reconnaître. Mais tout ça, c'est des petits détails, en fait, qui nous montrent qu'on peut, vraiment, en recoupant les évangiles, on peut chercher à avoir une idée très précise. C'est un peu ce qui, le film, malheureusement, inclut des récits qui ont été des visions d'une prêtre, d'une nonne, une bonne sœur catholique du XVIe siècle, je ne sais plus, qui avait des visions. La tradition catholique, et Mel Gibson s'en inspire un peu dans son film. Mais sinon, le film est une très bonne description qui regroupe tous ces événements. Et tout ça, ça doit nous montrer la souffrance incroyable et nous rappeler l'amour incroyable de Dieu pour chacun de nous. Le plus terrible, c'est de penser à la retenue du père qui voit son fils souffrir. Pour la plupart, certains d'entre nous sont déjà parents, sont parents. Et d'imaginer la souffrance d'un enfant alors que Dieu aurait, à un moment à l'autre, aurait pu envoyer des légions d'anges balayer tous les Romains, tous les Juifs, il aurait pu faire. Mais parce que, par amour pour moi, par amour pour vous, par amour pour nous tous, il a laissé la chose la plus précieuse au monde, être séparé de lui. Et je crois que c'est pas tant la souffrance physique dont il est beaucoup question dans le film, c'est quelque chose de très fort, quelque chose d'intenable même. Mais encore pire, c'est de penser que de toute éternité, il y avait cette unité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que par amour pour des créatures avec qui il a voulu partager son amour, Dieu s'est séparé de son Fils pendant quelques temps, 3 jours, 3 nuits, que Jésus a volontairement été au devant de cette souffrance par amour pour moi. Le fait que le péché, pour être pardonné, a pris la chose la plus coûteuse au monde, l'amour de Dieu pour son enfant, ça devrait nous inspirer vraiment une horreur du péché, un amour sans limite pour Dieu, pour Jésus, pour ce qu'ils ont fait pour nous, et le désir de ne pas se laisser tromper par ceux qui nous disent nous aimer, comme le diable qui nous dit que en fait, notre bien, ça va être d'aller commettre tel ou tel péché, parce qu'en fait, Dieu ne nous aime pas vraiment, il veut nous retenir des bonnes choses de nous. Mais cette semaine de la Passion, je crois que c'est le titre que quelqu'un a utilisé, l'agonie d'amour, c'est un très beau titre. C'est pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est son amour pour moi, et pour toi, et pour nous. Amen.